France Musique.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous écoutez France Musique, il est 8h. Le journal, Olivier Denré, bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. L'Afrique du Sud a rapidement suivi les Américains et suspendu à son tour l'utilisation du vaccin du laboratoire Johnson & Johnson. 6 cas de thrombose cérébrale après 7 millions de personnes vaccinées avec ce produit ont suffi à déclencher l'alerte. Les autorités sanitaires des États-Unis recommandant de faire une pause avec ce produit. Dans la foulée, le labo en question a fait savoir qu'il y aurait en Europe des retards de livraison. En France, des dizaines de milliers de doses de ce vaccin sont récemment arrivées, sauf que les soupçons mis en lumière outre-Atlantique pourraient bien ralentir chez nous la campagne vaccinale. Laura Dulieu.
206 000 doses de ce vaccin ont été livrées à la France en début de semaine. Elles ne sont a priori pas destinées au vaccinodrome, mais plutôt à la vaccination de ville et pour un public isolé, comme les habitants des territoires d'outre-mer, en particulier entre la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique, où l'acheminement des doses est particulièrement compliqué. La dose unique présente donc un grand intérêt logistique. Autre public ciblé, les personnes en grande précarité que les professionnels de santé ont souvent du mal à atteindre. Là aussi, l'unidose est avantageuse, pas besoin de faire revenir la personne pour la deuxième injection. Des enquêtes ont lieu en Europe et aux États-Unis pour établir ou non un lien entre le vaccin Johnson & Johnson et les cas de thrombose, même s'il reste très rare. Près de 7 millions de doses de ce vaccin ont été injectées outre-Atlantique. 6 cas de caillots sanguins sont pour l'instant recensés. Il est autorisé en Europe, mais pas encore administré. L'Union européenne a signé pour une commande ferme de 200 millions de doses. Jeudi dernier, Johnson & Johnson s'est engagé à les fournir d'ici la fin de l'année.
Plus aucun vol entre la France et le Brésil jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure de précaution a été annoncée hier par Jean Castex. Paris espère ainsi éviter la propagation du variant brésilien qui fait des ravages en ce moment au pays de Jair Bolsonaro. Les Français doivent pouvoir faire confiance à l'institution judiciaire. C'est l'ambition du garde des Sceaux. Il défend aujourd'hui sa réforme au Conseil des ministres. Pour y parvenir, Éric Dupond-Moretti fait le pari, entre autres, que les procès filmés auront un effet pédagogique non négligeable. Un point de vue qui interroge pour le moins l'historien Christian Delage. Il a largement contribué au cahier des charges de l'enregistrement du procès des attentats de 2015. Christian Delage répond à Florence Sturm.
On est passé d'une sorte de prudence extrême à tout à coup l'idée qu'il fallait filmer beaucoup de procès et toutes sortes de procès. Comme si au fond, les questions qui semblaient toujours un peu en suspens, ce qu'ils appellent la neutralité du filmage ou au contraire la subjectivité trop forte du réalisateur n'était plus vraiment à l'ordre du jour, en tout cas ne contrecarrait pas l'idée de filmer les procès. Ce changement important doit être remis en situation pour bien dire que le procès est certes un élément central, mais un des éléments du processus judiciaire. Ces procès ordinaires doivent être suivis dans leur intégralité, c'est-à-dire dans le déclenchement de l'affaire, la saisie par un juge d'instruction, les auditions. Et puis, je crois que c'est extrêmement important de le dire, c'est derrière comment le juge d'application des peines intervient. Donc je pense que les enjeux sont grands et s'il doit y avoir un phénomène de transparence par le fait de filmer, ça aurait une vertu très grande.
Le ministre de la Justice veut aussi généraliser les cours criminelles. Sans jury populaire, elles doivent juger les crimes passibles au maximum de 20 ans de prison. La chancellerie indique qu'elles vont juger plus vite et qu'elles vont réduire l'engorgement des cours d'assises. Cette mesure est très contestée par les magistrats et par beaucoup d'anciens confrères d'Éric Dupond-Moretti qui lui-même était contre quand il était avocat. Une rupture conventionnelle collective à Europe 1, la direction table sur une quarantaine de départs volontaires d'ici le mois de juin pour redresser la station. L'intersyndicale de la radio évoque une restructuration avant un possible rachat par Vincent Bolloré. Une rupture de plus avec la politique internationale conduite ces 4 dernières années par Donald Trump. Le nouveau président américain Joe Biden ne va pas honorer l'engagement de son prédécesseur de retirer les troupes américaines d'Afghanistan au plus tard le 1er mai prochain. Le retrait se fera, indique la Maison Blanche, mais la date butoir coïncidera avec le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. À New York, c'est une correspondance de Loïc Loury.
Un retrait sans condition, promet l'administration américaine avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Au respect du calendrier négocié avec les talibans, jugé intenable, Washington préfère le symbole. Les attaques menées par Al-Qaïda en 2001 en effet avaient précipité l'Amérique dans sa plus longue guerre. Jusqu'à 100 000 soldats américains y ont été déployés en même temps contre environ 2500 actuellement. L'œuvre de Barack Obama puis de Donald Trump, dont le gouvernement avait conclu il y a un an un accord historique historique avec les insurgés. Il prévoyait le retrait des troupes américaines et de l'OTAN, à condition que les rebelles n'empêchent désormais tout groupe terroriste d'opérer depuis les territoires afghans. Reste à savoir si les talibans respecteront leurs engagements. Le Pentagone en doute et craint de voir le pouvoir à Kaboul submergé par les insurgés. Sur le terrain, la violence reste très élevée entre les deux camps et les négociations sont au point mort. Elles devaient reprendre fin avril à Istanbul, mais les talibans assuraient hier qu'ils n'y participeraient pas avant que les troupes étrangères n'aient plié bagage.
Un ciel légèrement voilé sur l'ouest de la France, quelques ondées et des chutes de neige sur les reliefs de l'est. Il fera beau partout ailleurs, les températures iront cet après-midi de 9 à 19 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
Profitez-en et à demain 7h, Olivier Denré, bonne journée.
Bonne journée, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.